Eh bien voilà, merci d'être de retour pour cette dernière session. La table est ronde depuis ce matin, mais c'est maintenant que nous arrivons vraiment au format table ronde. Donc dans la session de ce matin, comme dans celle de cet après-midi, on a envisagé la question des frontières et des tensions entre public et privé comme un objet pour les sciences humaines et sociales. Vous avez observé les points de vue et les analyses portées par plusieurs disciplines des SHS, au moins une demi-douzaine. On a souhaité terminer cette journée en plaçant la question des disciplines au centre de notre réflexion conclusive. Alors, public-privé, je l'ai dit en démarrant ce matin, c'est une forme de division des modes d'organisation et des modes de vie collective, mais les disciplines sont également des formes de division et de démarcation de la vie disciplinaire et académique. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est de voir justement comment cette logique de division disciplinaire, elle travaille cette partition publique-privée. Donc pour cette table ronde, on va être sur un format un petit peu différent, des interventions plus courtes, de 10 minutes chacune, pour nous permettre ensuite d'échanger. Donc les quatre présentations cette fois-ci vont s'enchaîner assez strictement, de manière à ce que relativement rapidement, au bout de 40 minutes, on puisse enchaîner sur la discussion collective. Donc pour, on n'est plus ici dans une entrée thématique. Ce qui va faire le point commun de ces différentes interventions, c'est une approche, une perspective proposée par un ou une collègue instituée ici pour 10 minutes en représentant ou représentante de son champ disciplinaire. Donc chacune de ses collègues va nous dire comment sa discipline, en général, ou un sous-champ de la discipline dont il ou elle serait particulièrement familière, aborde cette question de la distinction public-privé. Donc les quatre intervenants et intervenantes, Christian Lebar en sciences politiques, Caroline Müller en histoire, Stéphanie Renard en droit public et Michel Renaud en économie, se sont vus poser quatre questions, les mêmes, je ne vous les répéterai pas in extenso pour éviter de... on n'est pas dans une pression évaluative ici, mais sachez en tout cas que l'idée était bien de construire une trame commune de présentation du regard de leur discipline sur cette bipartition afin de permettre la confrontation et le partage des points de vue entre les disciplines. Donc sans plus attendre, nous allons commencer par écouter Christian Lebar, qui sera suivi par Caroline Müller, puis viendra Stéphanie Renard et enfin Michel Renaud. Christian, merci beaucoup pour la science politique, c'est à toi.
Merci, bonjour à tous, merci aux organisatrices de leur invitation. Donc je suis la science politique, voilà, pour 10 minutes, mon rêve de toujours. Alors il faut aller évidemment à l'essentiel, je vais répondre aux questions en disant à la fois ce que je crois être le rapport de ma discipline au clivage public-privé, et puis je vais essayer quand même de dire deux, trois mots sur ce que je fais, comment moi je fais travailler ce clivage. Alors évidemment, première remarque, sciences politiques, a priori, née du droit public, en France en particulier, on s'attend à ce que la science politique interpelle directement tout ce qui est public et entretienne des relations beaucoup plus ténues avec ce qui est privé. Si on feuillette un manuel de sciences politiques, on y voit les notions d'espace public, d'action publique, de personnalité publique, de discours public, de vie publique, etc. Bon, il va sans dire que cette première approche est extrêmement approximative, pour deux raisons au moins que je vais évoquer très brièvement. La première raison, c'est que dans sa volonté d'être une sociologie du politique ou une sociologie politique, la science politique, évidemment, piétine allègrement le clivage ou la frontière entre le privé et le public, et par exemple s'amuse à construire des causalités qui permettent de bousculer cet ordonnancement à laquelle personne ici, je crois, ne croit sérieusement. Je pense à des travaux ultra classiques sur qu'est-ce qui fait qu'on vote à droite ou qu'on vote à gauche, qu'est-ce qui fait qu'on milite, qu'est-ce qui fait qu'on s'engage en politique. Eh bien évidemment, ces travaux remontent vers des choses qu'on a tendance à renvoyer au registre de la vie privée, c'est-à-dire la religion, l'orientation religieuse, c'est-à-dire la socialisation familiale, c'est-à-dire l'orientation sexuelle, etc. Donc, évidemment, il n'y a pas ici à faire de coupure scientifique rigoureuse entre « on serait une science du public et le privé ne nous intéresserait pas ». On a même des collègues qui ont, à un moment, plaidé pour une psychanalyse des dirigeants, pourquoi pas. Deuxième remarque pour critiquer ce clivage, la frontière entre le public et le privé est de plus en plus fragile et bon nombre de travaux, de fait, sont obligés de prendre acte du fait que quand on s'intéresse aux phénomènes politiques, on s'intéresse à des choses qui relèvent du privé autant que du public. Je prendrai deux séries d'exemples. Quand on travaille sur les politiques publiques, sur l'analyse des programmes d'action publique, eh bien, très rapidement, on rencontre des choses qui concernent la vie privée. Alors, tout simplement parce que l'État-providence s'inquiète ou s'intéresse à la vie privée des individus. Et par exemple, dans la perspective ouverte par Michel Foucault, eh bien, voilà, le gouvernement des conduites, c'est aussi un gouvernement de l'intime, la santé, la sexualité, le rapport à la mort, la religion, le genre, etc. Donc du coup, toutes ces choses-là se trouvent comme rapatriées dans le champ de notre discipline. Et le deuxième exemple que je voulais donner, c'est celui de la peopleisation politique. On ne peut pas considérer que les gens qui vivent de et pour la politique, comme disait Max Weber, sont uniquement des personnalités publiques, ou plus exactement, il faut mettre des guillemets à public, puisque ces personnalités publiques sont aussi des gens qui, de plus en plus, dans des revues qui ne sont certes pas la Revue française de sciences politiques, mais Voici ou Gala ou Closer, se donnent à voir comme étant mariés avec des enfants, avec des vacances, avec des vieux parents, avec des états d'âme, avec des amitiés, avec des maîtresses éventuellement ou des conjoints de toutes sortes. Pour toutes ces raisons, il me semble que la science politique, depuis quasiment sa naissance, a toujours fait le pari prudent qui consistait à ne pas utiliser les notions de privé et public comme des concepts ou comme des outils théoriques pour penser le monde, mais prendre ces objets, privé et public, comme des objets à investiguer, à étudier. Et en particulier, l'idée, ce serait que depuis la science politique, mais on pourrait dire depuis le droit, depuis l'économie, depuis toutes les disciplines, et on l'a bien vu depuis ce matin, eh bien, l'objectif des sciences sociales, me semble-t-il, c'est d'étudier la façon dont s'est construit ce clivage. Hein. L'histoire manque peut-être un peu de ce point de vue-là. La linguistique aussi, puisque quand je dis le clivage, c'est aussi les mots qui servent à le faire vivre dans les constructions rhétoriques ordinaires. Je pensais au modèle des cités proposé par Boltanski et Thévenot. Alors, dans une sociologie très particulière, sans doute, mais puisque Boltanski a déjà été cité ce matin. Donc, les cités chez Boltanski et Thévenot, bah, ça peut être la cité domestique, registre privé, ça peut être la cité civique, registre public, et puis d'autres, évidemment, je n'ai pas le temps de développer davantage. Je pense aussi aux travaux d'Habermas sur la jeunesse de l'espace public. Hein, voilà, comment est-ce que s'invente la catégorie du public, s'émancipe du public et du privé. Et je crois qu'il y a urgence, enfin, il y aurait, ça a été fait par beaucoup de collègues dans toutes nos disciplines, hein, il y aurait lieu d'essayer de faire une socio-histoire de la catégorie public-privé. Je suis complètement d'accord avec une remarque qui a été faite ce matin. C'est-à-dire, je crois que pendant très longtemps, ce qu'on pourrait appeler la modernité, public et privé sont deux notions qui s'adossaient l'une à l'autre, un peu comme deux poutres qui seraient posées l'une contre l'autre pour se soutenir mutuellement. Hein, je pense que l'État a fabriqué, c'est l'État qui invente la vie privée d'une certaine façon, et réciproquement. Donc, je pense que voilà, on a vraiment une structuration réciproque des grandeurs, des mondes, de ces deux univers qui se regardent en chien de faïence, qui s'opposent et qui sont un peu les frères ennemis, si on veut. Ça, ce serait la modernité politique. Et puis, c'est une hypothèse comme ça, un peu sauvage, bon, voit que pour très original, qui traîne un peu partout, mais j'en profite pour la formuler. Et on aurait ce qu'on pourrait appeler une seconde modernité ou une post-modernité qui se caractériserait au contraire, faire écho à ce que tu disais, par l'hybridation, voilà, le fait que les frontières sont complètement bousculées, qu'une interpénétration assez massive du privé qui s'impose dans le public et du public qui s'impose dans le privé. Je pense qu'il y en a eu plein d'exemples depuis ce matin, et c'est cette hybridation que, à titre personnel, j'explore un peu en travaillant sur la vie politique, sur les personnalités politiques. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle les personnalités politiques. Et dans des travaux récents, j'ai exploré deux questions, deux objets. Un premier objet qui était les livres publiés par des professionnels de la politique, et un deuxième objet qui était les surgissements émotionnels des professionnels de la politique. Donc ça peut être les coups de sang, les crises de larmes, enfin, surtout colère et larmes. Voilà. Donc ce qui m'a intéressé à travers ces deux objets, c'est ce que j'essaie d'appeler l'ego politique, c'est que de plus en plus les politiques se légitiment, non plus en référence aux catégories institutionnelles du public, mais en référence aux catégories qui sont celles, en principe, de la vie privée, c'est-à-dire les catégories de l'authenticité, de la vérité, de la sincérité. Hein, ainsi voit-on nos plus grandes personnalités politiques écrire des textes dans lesquels ils disent leur lâcheté, leur faiblesse, leur remords, bref, toute une série de choses qui, en principe, c'est encore Christine qui disait, ne franchissent pas la porte de l'institution publique. Hein, il y avait, voilà, je suis en train de lire une biographie de Joseph Caillaux. Bon, voilà, quand on était Joseph Caillaux, quand on rentre à la chambre, hein, il y a toute une série de choses qui restent à la porte. Hein, voilà, c'est un autre, c'est les deux corps du roi de Kantorowicz, si on veut. Eh bien, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier aujourd'hui la façon dont on fait son miel avec les deux corps en même temps, on fusionne les deux corps, et comment, de plus en plus, les présentations de soi stratégiques des professionnels de la politique sont imprégnées des catégories du privé dans un contexte de crise. Mais là, j'ai pas le temps, et je vais me faire rouspéter de crise des partis politiques, des institutions politiques en général. C'est ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation du champ politique, mais j'en ai déjà trop dit, j'imagine. Encore une minute. Ah, tu me. Alors là, en fait, j'ai plus rien à dire du tout. Voilà. Eh bien, je l'offre. Ah, bah, vas-y.
Pardon. Bonjour à tous et puis merci pour votre invitation. Alors là, le micro est un peu haut. Donc moi, je suis l'histoire, voilà, aujourd'hui. donc je suis Caroline Muller et je travaille en histoire contemporaine. Je suis spécialiste d'histoire du genre et du fait religieux, mais au XIXe siècle. Et je le précise tout de suite parce qu'évidemment, ça a un biais. Un historien du XVIe siècle ou du XVIIe siècle raisonne pas, ne réfléchit pas de la même manière qu'une historienne du XIXe siècle. En particulier parce que le XIXe siècle est un siècle de très forte élaboration autour de cette question de la sphère publique et de la sphère privée. Alors, donc moi je travaille beaucoup sur le rapport entre genre et religion, sur une pratique qui s'appelle la direction de conscience, mais à la limite, vu qu'aujourd'hui je suis l'histoire avec un grand H, je vais peut-être pas détailler le contenu précis de mes travaux. Mais d'emblée, c'est quand même important de dire que pour des historiens, des historiennes, la façon dont on va travailler la distinction public-privée, eh bien, varie significativement si on est un historien de l'administration, un historien de la police, un historien du fait religieux, ou plutôt ce qui est mon cas aussi, une historienne de l'intime, de ce qu'on pourra appeler, d'une certaine manière, la sphère domestique ou la sphère privée, même s'il faudrait voir comment tout ça s'empile, parce que je suis pas très sûre que ça se recouvre exactement. Ce qu'on a en commun, tous ces historiens et historiennes, c'est qu'on essaye non pas de partir de ce que serait la sphère publique ou privée, mais on est un petit peu obligé de revenir aux documents et à la manière dont les acteurs historiques, eux, donnent du sens à cette distinction, voire l'élaborent à chaque instant. Donc on part pas d'une définition qu'on appliquerait, mais on essaie de voir quand est-ce que cette idée d'une bipartition ou cette organisation de la société a émergé, pourquoi, dans quel contexte. Donc de ce point de vue-là, on est finalement assez proche de ce que peuvent faire certains historiens du droit, et on a vraiment besoin des historiens du droit. Alors en histoire du genre particulièrement, que ce soit l'histoire des femmes ou l'histoire des masculinités, on passe beaucoup de temps à analyser la rhétorique autour de ce qui est privé et ce qui est public. C'est-à-dire l'idée qu'il existerait des sphères de l'existence qui justifieraient des occupations différenciées des hommes et des femmes. Alors pour le XIXe siècle, c'est bien sûr l'idée que la place des femmes serait dans la famille, dans le foyer, alors même que c'est aussi le siècle qui consacre le travail salarié des femmes, c'est-à-dire la sortie des femmes de l'espace domestique. Donc vous voyez tout de suite un petit peu une tension et un paradoxe, c'est que c'est pas forcément les sociétés qui élaborent le moins cette distinction, qui l'appliquent. Et c'est aussi la grande difficulté de comprendre la différence entre les pratiques et les discours et de comprendre pourquoi il y a un tel discours sur la différenciation entre le privé et le public, alors même que dans les faits, c'est le 19e siècle est un siècle où ces sphères-là sont, dans les faits, très très poreuses. Alors aussi, au nom de quoi on crée ces sphères, enfin, il y a cette idée qu'il y aurait des sphères d'action des hommes et des femmes au nom de qualités, défauts qui sont naturelles et essentialisées. Donc un des apports de l'histoire des femmes et du genre, c'est d'essayer de voir d'où vient ce discours et quels sont ses objectifs. Pourquoi on a besoin de cette bipartition privé-public pour attribuer des rôles à chacun. Après tout, il y aurait pu y avoir une autre manière d'organiser les choses. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est justement de montrer que cette distinction relève vraiment du discours et pas des faits, puisque les femmes, par exemple, sont présentes tout le temps dans l'espace public, dans l'espace du politique, à condition d'observer la manière dont elles s'y investissent. Donc, par exemple, on voit que au début du XXe siècle, il y a ce qu'on appelle les ligues de femmes catholiques, sur lesquelles j'ai un peu travaillé. Et ces ligues de femmes catholiques, elles demandent pas du tout le droit de vote, elles veulent pas du tout, dans les discours, elles ne veulent pas du tout occuper l'espace public ou l'espace politique. Au contraire, elles défendent leur rôle maternel, leur rôle domestique, mais en pratique, en fait, elles passent leur journée à sillonner les rues et les routes pour distribuer des tracts, pour convaincre les gens dans les maisons qu'il faut voter en faveur des conservateurs. Donc, vous voyez là tout ce à quoi sert aussi l'histoire des femmes et du genre, c'est essayer de réfléchir entre la façon dont les gens s'approprient un discours parce qu'ils en ont besoin pour se légitimer aux yeux des acteurs, tout en n'en prenant que ce qui les intéresse et en ne l'appliquant pas. Puisque si on regarde concrètement ce que font ces femmes, bah, à aucun moment elles ont l'air de s'arrêter aux frontières de leur maison ou de l'espace que d'autres discours et les autorités leur attribuent. Alors évidemment, ça fonctionne très bien pour les ligues catholiques de femmes, mais ça fonctionne aussi pour tout l'espace public, tous les petits métiers, toutes les protestations populaires, où on sait que les femmes sont là partout, tout le temps. Alors vous voyez que là, en fait, l'histoire du genre et des femmes, elle permet de réfléchir à la manière dont, en dépit des discours, les gens font et les femmes font. Mais à l'inverse, l'histoire des femmes et du genre aide à comprendre l'enracinement privé des rôles publics. Puisque on ne peut pas penser, par exemple, le citoyen au XIXe siècle sans penser le père et le mari. Il faut qu'il y ait un roi dans la famille pour qu'il n'y en ait point dans la société. Je cite un député révolutionnaire. Donc, il y a quand même cette idée que le citoyen, il est fondé dans la paternité, parce qu'il porte les intérêts de sa famille, parce que c'est lui qui est capable de prendre les décisions rationnelles pour toute sa famille. Mais si on en reste au discours qui est bon, ben voilà, le citoyen, celui qui vote, il appartient au public, aux politiques, à la délibération. Ben, on comprend pas très bien, en fait, le fondement de cette pensée-là. Donc, vous voyez qu'il y a un petit peu les deux mouvements. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de considérer que cette frontière-là, privée-publique, elle est toujours en recomposition, elle est toujours discutée, toujours négociée. Et qu'il y a une historicité de cette élaboration rhétorique. Et je crois que, enfin, je suis arrivée un peu tard, mais on a tous été d'accord aujourd'hui pour se rendre compte que c'est tout à fait poreux. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps beaucoup de choses qui circulent entre ce privé et ce public. Alors, ça concerne bien sûr pas que le 19e siècle. Là, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup d'historiens qui travaillent, enfin, beaucoup, quelques-uns, qui travaillent sur la manière dont la naissance d'Internet, puis du web, ont modifié les espaces d'énonciation et, par exemple, comment les gens se perçoivent au début d'Internet, au début du web, donc par exemple dans les newsletters ou les premiers forums. Est-ce qu'ils se percevaient comme étant dans un espace privé ou public ? Donc ça, c'est juste en passant pour sortir un peu du 19e siècle. Alors, trois autres exemples peut-être de la façon dont ça peut être utile de travailler avec cette dialectique public-privé en histoire. Alors, je vous ai parlé de la façon dont, au nom de cette coupure, les femmes sont exclues de manière volontariste des espaces de délibération politique. Ça, par exemple, en 1848, en pleine révolution, les hommes élaborent des discours expliquant aux femmes pourquoi elles doivent fermer leur club de discussion politique. Donc, en fait, la crise, par exemple, permet de voir émerger cette idée qu'il y a des sphères dans lesquelles chacun devrait se cantonner. On ne peut pas aussi travailler la question des croyances religieuses sans travailler cette question de la coupure ou en tout cas de la circulation publique-privée, surtout pour le 19e siècle. Donc il y a trois grands dossiers qui mettent en mouvement ce rapport public-privé. État privé. Il y a le divorce. Oui. Le divorce, est-ce que ça doit relever de l'Église ou de l'État? Quelle place ça tient dans la vie des gens? Est-ce que cette sphère de la vie des gens, elle appartient au public ou au privé? Il y a l'école, jusqu'à la loi de 1905 que vous connaissez. Et alors, un dernier exemple, pour vous montrer combien le 19e siècle est vraiment un moment de très forte élaboration sur ces sujets. Alors même qu'on affirme qu'il y a une sphère privée qui relève de la famille et de l'autorité du père, c'est aussi le moment où la République, à partir de 1889, décide de la loi sur la déchéance paternelle, c'est-à-dire l'idée qu'on peut imposer à un père de ne plus avoir de droit sur son enfant. Donc vous voyez toute la difficulté pour ce siècle-là de manipuler ces deux éléments, parce que c'est tout à la fois en même temps qu'on élabore cette idée qu'il faut protéger les citoyens, enfin dans leur famille, qu'il y a une sphère à l'abri du regard public, qu'on élabore aussi en même temps tout un tas d'interventions et d'interventions de plus en plus grandes qui vont grignoter l'autorité du père. Donc je termine juste sur... parce que j'avais une minute de plus qu'on m'a offert tout à l'heure. Fallait pas me le dire. Quels objets et quelles méthodes, pour moi aujourd'hui, sont les plus stimulantes pour analyser ces recompositions de la frontière publique-privée? C'était une des questions qu'on m'avait posées. Eh bien, c'est justement les espaces en tension, c'est-à-dire ceux qui mobilisent les acteurs au nom d'une conception de ce qui relève du public ou du privé. Alors, je vous ai parlé de la correction des enfants, c'était pas tout à fait innocent. C'est parce que, par exemple, récemment, il y a eu beaucoup de discussions autour des violences éducatives. L'interdiction des violences éducatives. Alors c'est très intéressant parce que ça croise l'histoire de la violence légitime, l'histoire de la correction, l'histoire de la parentalité et l'histoire de l'intervention de l'État. En gros, qu'est-ce qu'on peut faire à son enfant? Est-ce qu'un enfant, il relève de la famille, donc d'un espace privé ou du public, et à ce titre-là, on n'a pas le droit d'exercer des violences sur son enfant. Un autre exemple, c'est l'asile. Parce que l'asile, il y a la question du rôle de la famille, de la responsabilité de l'État, du consentement du patient. Et en fait, dans toutes ces situations... les gens sont obligés d'expliciter leur logique et de se défendre au nom du fait que c'est privé, c'est public et dans quel sens. Et puis je terminerai juste sur l'exemple de l'espace, l'histoire cette fois-ci de l'espace concret et pas de l'espace métaphorique, et par exemple de l'histoire de la rue avec tout l'histoire des conflits d'usage et d'appropriation, puisque si vous regardez aujourd'hui la manière dont les sociétés considèrent l'espace de la rue, ça n'a plus rien à voir avec les conceptions des femmes et des hommes d'il y a un siècle et demi. Donc c'est aussi une question évidemment politique, c'est celle aussi de l'histoire de ce qu'une société va considérer comme ce qu'on appelle aujourd'hui des communs. Voilà. C'est bon ? Je suis dans les clous.
Bien, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Je remercie particulièrement Anne-Sophie de cette invitation, puisque tu en es à l'origine directe. Alors moi, je suis juriste, mais je ne pratique pas n'importe quel droit. Je suis juriste publiciste et spécialisée en droit de la santé, ce qui peut avoir son importance pour la partition publique-privée. D'abord parce que le droit de la santé, en fait, c'est un droit qui est à la croisée du droit public et du droit privé. On a dit ce matin que le droit public et le droit privé étaient séparés de façon assez ferme, ce dont je doute. Enfin, c'est un droit à la croisée. Et ensuite, parce que le fait d'être publiciste et notamment compétente en droit administratif, bien fait que la tension publique-privé est au cœur de mes questionnements quotidiens, de mes enseignements et de mes recherches. Et ceci pour au moins deux raisons. La première, elle tient déjà à la définition même du droit administratif, puisque c'est un droit de l'action publique qui est dit exorbitant du droit commun, c'est-à-dire exorbitant du droit privé. Donc, on voit bien ici les deux logiques. Hein, et une grosse part de notre travail de conceptualisation, en fait, consiste en la détermination de critères opérationnels qui vont permettre de circonscrire le champ du droit public, et c'est d'autant moins évident, on a eu quelques aperçus cet après-midi et ce matin d'ailleurs, d'autant moins évident que les administrations publiques eh bien, recourent à des procédés de gestion privée et que les personnes privées eh bien, concourent largement, ne serait-ce que par la délégation de services publics, concourent largement aux affaires publiques. Hein, et on prend généralement l'exemple classique de l'ordre professionnel qui est une personne morale de droit privé chargée de la régulation de personnes privé les membres de la profession et qui pour autant exerce une mission de service public et est donc soumis au droit administratif. Donc on a le mélange entre les deux. Alors la seconde raison, qui se rattache d'ailleurs à la première, réside dans le fait que le droit administratif s'affirme encore aujourd'hui comme un droit de la puissance publique. Autrement dit, ce serait un droit de la contrainte qui soumet la liberté et la volonté individuelle. Et aujourd'hui comme hier, eh bien, il importe, ne serait-ce que pour des raisons purement politiques, eh bien, de savoir tracer la frontière de cette intervention, de cette action publique, de cette intervention souvent contraignante, dans les différents secteurs de l'activité humaine. Alors, on enseigne à nos étudiants, traditionnellement, que l'action administrative et donc son intrusion dans la sphère privée ne peuvent se concevoir qu'au regard de l'intérêt général, c'est-à-dire au regard de besoins collectifs dont l'importance est telle qu'elle justifie une action de la part de l'État et de ses dérivés, les autres besoins pouvant être laissés à l'initiative privée. Mais l'on sait aussi que la frontière entre ce qui doit être public et ce qui doit être privé, eh bien, elle est éminemment évolutive et contingente. L'intérêt général en temps de paix n'a évidemment rien à voir avec l'intérêt général en temps de guerre ou sous un état d'urgence, par exemple, hein, dans une légalité d'exception. L'identification de l'intérêt général par un état gendarme ou un état veilleur de nuit n'a rien à voir avec l'identification de l'intérêt général par l'état-providence. Et donc, voilà, hein, tout ce qui se rattache à cet intérêt général et donc à cette délimitation sphère publique, sphère privée fait vraiment partie, hein, de nos travaux quotidiens. Et en fait, cette étude de la frontière entre public-privé, eh bien, va nous permettre, nous, de définir les contours, le modèle d'État dans lequel nous évoluons et puis aussi, hein, bien sûr, les principes qui légitiment son action. Alors, c'est une question qui a été au cœur de mes travaux de recherche de doctorat consacrés à l'ordre public sanitaire. Alors, l'ordre public sanitaire, pour le résumer très rapidement, hein, c'est le droit de l'intervention de l'État, intervention contraignante de l'État, dans le champ de la santé publique et pour la protection de la santé publique. Alors, de même que l'ordre public ne peut absolument pas être conçu comme l'ordre de l'espace public, l'ordre public sanitaire, hein, c'est pas la santé dans les espaces collectifs ou dans les espaces publics. Et en fait, l'imbrication du public et du privé, elle est constante, hein, en la matière. Alors, pour plusieurs raisons, on sait tout d'abord que les mécanismes, et ça me fait penser à ce qu'on a entendu cet après-midi, les mécanismes de contagion et de contamination ignorent absolument tout des frontières, qu'elles soient publiques, privées, nationales, internationales, etc. Hein, ce qui explique que le champ de la santé soit marqué par cette étroite imbrication de l'individuel et du collectif, du public et du privé, et ceci depuis bien longtemps, hein, depuis l'essor de la santé publique, hein, au XIXe siècle, on se posait déjà la question au moment de l'essor de l'hygiénisme et de la solidarité sanitaire. On sait également que la santé de tous, eh bien, dépend largement de la santé de chacun et que la prophylaxie individuelle, eh bien, contribue à la santé collective, hein, d'où la création d'obligations individuelles à la santé dans un but de santé publique, hein, tel que les vaccinations obligatoires dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, même si ces vaccinations obligatoires, là encore, elles ont été inventées à la fin du XIXe siècle, hein, et rendues véritablement obligatoires sous la forme qu'on connaît actuellement par une loi de 1902. Donc c'est vieux. Enfin, plus récemment, l'émergence de la notion de sécurité sanitaire, donc à la fin du XXe siècle, hein, à la suite des grands scandales sanitaires du XXe siècle, a conduit à une nouvelle extension de l'emprise sanitaire de l'État, en raison d'une part de nouvelles attentes de sécurité, et d'autre part en raison de la revendication d'un droit fondamental à la protection de la santé. Alors, droit fondamental à la protection de la santé qu'on peut concevoir comme un droit individuel, mais qui aujourd'hui relégitime l'intervention de l'État et l'intervention des administrations en la matière. Donc on a une imbrication, hein, croissante entre cet ordre public sanitaire, un droit de l'action publique qui relève de l'action publique, et le droit à la protection de la santé individuelle, hein, on va dire, qui relégitime et qui refonde en fait cette action. Avec l'émergence d'impératifs nouveaux, de sécurité pour la santé des personnes, alors obligation de sécurité pour la collectivité, mais aussi pour la santé des personnes. Alors, de cette émergence de la sécurité sanitaire, notamment, hein, résulte une évolution des modalités d'intervention de l'État et des administrations, avec, on va dire, une recomposition, une reconfiguration peut-être des frontières entre public et privé, mais toujours là, au prisme de l'intérêt général. Il y a de nombreuses raisons, hein, qui expliquent cette recomposition et ces déplacements. Je pense que, d'une part, l'émergence de la société du risque, hein, ce que Beck a nommé la société du risque, c'est-à-dire une société marquée par l'émergence, en tout cas la prise de conscience de risques de masse, de risques sériels, et le numérique fait partie de ces types de risques sériels, avec une revendication accrue de protection et une revendication accrue de sécurité individuelle, en fait partie, avec des nouvelles méthodes de prévention, nouvelles méthodes d'action, traçabilité, veille, vigilance, précaution, appel à la société civile aussi. Et ce sont des mécanismes qu'on retrouve d'ailleurs en matière de cybercriminalité ou de cybersécurité. Deuxième cause, sans doute l'interpénétration aussi des droits fondamentaux. Je parlais tout à l'heure de la refondation de l'ordre public sanitaire sur droits fondamentaux à la protection de la santé, mais on a quand même une imbrication, une interpénétration des droits fondamentaux et de l'ordre public aujourd'hui qui conduit à une subjectivisation croissante de l'intérêt général. On prend de plus en plus en compte les intérêts privés au sein de l'intérêt général. Il suffit, pour s'en convaincre, je crois, aussi d'observer l'explosion des dispositifs actuels de protection des personnes contre elles-mêmes et de protection obligatoire des personnes contre elles-mêmes et l'intervention, notamment du législateur en la matière. Et puis la troisième cause est sans doute liée, alors il y en a sans doute plein d'autres, au contexte économique contraint dans lequel se manifestent, se développent ces nouvelles exigences de protection, ces exigences accrues de protection, avec une recherche d'efficacité et de performance et la reprise de logiques de rentabilité qui sont déjà à l'œuvre dans le secteur public et qui amènent à de nouvelles interventions de l'administration. Et puis, d'autre part, le recours à nouveaux mécanismes d'externalisation de l'action publique. Tu pourras en parler, Raphaël, en la matière. Alors, au niveau des méthodes de recherche, puisque la question que vous était posée et des perspectives de recherche, je pense qu'un travail sur l'interventionnisme actuel de l'État, où les modalités de cet interventionnisme est important. Moi, je pense qu'il émerge aujourd'hui ce qu'on appelle parfois l'État régulateur, mais qui pour moi est un État paternaliste, qui avec un nouveau ou un double mouvement de recomposition de la frontière publique-privée, une extension du champ de l'intervention publique, ça c'est indiscutable, d'un côté, avec la collectivisation de préoccupations individuelles. Et puis, parallèlement, pour en revenir à la gouvernance, eh bien, une privatisation des modalités, des moyens de cette intervention. Donc, on exige plus de l'État, davantage de l'État, mais différemment, avec une sorte de perte de spécificité, on va dire, des modes d'action publique et un emprunt à des outils classiques du droit privé.
Bon, donc, je suppose que c'est à moi. Donc moi, je suis Michel Renaud, donc je suis l'économie ce soir. Donc, je conclue. Alors, en matière d'économie, bon, je suis un peu mal à l'aise parce qu'en plus, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Association française d'économie politique, qui est un peu opposée, disons, à l'Association française de sciences économiques, donc ce qui me met dans une posture quelque peu délicate vis-à-vis de l'incarnation de la discipline que je pourrais faire. Mais bon, je vais quand même essayer de le faire. Alors, il y avait quatre questions. Donc moi, assez bêtement, en bon économiste optimisateur, donc je les ai traitées de façon sérielle. Et donc j'ai commencé par la première. Donc c'était un peu en quoi la discipline est concernée par la tension public-privé. Donc alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'ai pris un petit biais, puisque j'ai retrouvé une citation de Milton Friedman, une des grandes catastrophes intellectuelles du XXe siècle, donc qui disait que pour croître, pour se développer, il est nécessaire de faire trois choses, libéraliser, stabiliser, privatiser. Donc si on prend le premier axe de la pensée de Milton Friedman, donc libéraliser, donc il s'agit évidemment d'enlever toutes les contraintes qui peuvent peser. Alors évidemment, les contraintes sont par exemple les syndicats, toute forme d'organisation du travail, les statuts qui peuvent protéger éventuellement les fonctionnaires, par exemple. Donc il s'agit évidemment de décomposer tout cela pour aller vers une concurrence libre et non faussée, un monde fluide, une liquidité générale, bon, qui vise aussi à une forme de liquidation. stabiliser. Donc Friedman voulait aussi évidemment faire en sorte que les droits de propriété ne soient pas atteints, puisque l'économie repose sur un échange de droits de propriété. Ce qu'on va échanger d'abord, on l'a évoqué un peu ce matin à certaines occasions, ce sont des droits de propriété. Hein, et donc il faut les protéger contre toute forme de décomposition. Et ce qu'il visait ici, c'est particulièrement l'inflation qui d'une certaine façon dévalorise les droits de propriété. Donc à partir de ce moment-là, il faut contrôler strictement l'inflation. Et la seule façon de le faire, selon lui, c'est évidemment qu'il y ait des banques centrales indépendantes de toute action de l'État. Donc on va, d'une certaine façon, privatiser. Alors je mets des guillemets derrière ce terme privatiser. Mais enfin, on va privatiser la gestion de la monnaie. On va l'externaliser par rapport à l'État sous des fins de stabilisation. Et puis évidemment, on sait qu'elle est la plus évidente, le troisième axe, c'est privatiser. Donc il faut là aussi dessaisir l'État, donc le public. Là aussi, on pourrait discuter sur le terme public. Hein, priver l'État de ses prérogatives en termes de production. Bon, là aussi, toute ressemblance avec des faits actuels ne serait pas totalement fortuite si on prend en compte, par exemple, les nouvelles privatisations, Aéroports de Paris, par exemple, ou autre. Mais on pourrait parler aussi d'autres formes de privatisation un peu plus subtiles qui font entrer le privé dans le public, comme les entreprises dans l'université. Donc à titre d'exemple, très récemment, donc, on discutait de la mise en place d'une chaire à l'université de Rennes 1, et un des attendus de cette chaire, c'était qu'elle puisse intéresser les entreprises, donc, que les objets de recherche puissent intéresser les entreprises. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, l'économie ou la science économique apparaît un peu comme un moteur intellectuel, bon, parmi d'autres évidemment, mais quand même comme un moteur intellectuel de cet appauvrissement, on va dire, de la distinction publique-privée et cette pénétration, cette absorption partielle au moins du public par le privé. Alors si on vient à la deuxième question qui était posée, c'était un peu quel sens la distinction entre public et privé revêt dans la discipline. Alors là aussi, dans le monde ancien, moi j'ai pu faire mes études par exemple, c'était assez clair par exemple. On commençait par nous dire qu'il y avait des biens publics et puis des biens privés. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, les biens publics étaient produits ou fournis par l'État et puis les biens privés, c'était le champ des entreprises. Donc les biens privés, ils étaient caractérisés par, on nous disait, la rivalité et l'exclusion. Donc rivalité parce qu'il y a rareté, donc il y a concurrence autour des biens. Et puis exclusion parce qu'il y a un prix. Donc si vous ne pouvez pas payer le prix, bah, vous êtes exclu de la consommation du bien. Et puis les biens publics, c'était l'inverse. Hein. C'est-à-dire il y avait là non-rivalité et non-exclusion. Donc il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de rareté. Ils étaient offerts à tout le monde finalement. Et puis il n'y avait pas d'exclusion puisque ces biens ne faisaient pas l'objet d'un prix, du moins pas d'un prix marchand. Ils pouvaient être financés par l'impôt, par exemple. Alors évidemment, si on regarde là aussi historiquement, la tension entre public et privé, en fait, est plus complexe que ça, puisque un économiste pris en mémoire d'Alfred Nobel de la Banque de Suède d'économie, puisque c'est ça l'intitulé tout à fait exact du pseudo-prix Nobel d'économie, Ronald Coase, bon, a bien montré qu'un des exemples qu'on nous donnait à l'école, entre guillemets, en disant que voilà, le phare, c'était un exemple de bien public traditionnel, puisque voilà, il n'y a pas de rivalité. Le phare, il va servir à tous les bateaux. Qu'il y ait un bateau qui en ait 100, qui en ait 100 000, ils auront toujours le phare. Et puis, c'est un bien qui n'est pas exclusif, puisqu'il n'y a pas de prix. Les bateaux, ils ne vont pas payer un prix. Or, ce que montre Ronald Coase historiquement, c'est qu'en fait, bah, il y a eu des phares privés. Et donc, à partir de ce moment-là, cette distinction bien claire entre privé et public, on serait déjà pas très opérationnel d'un point de vue et pas très réaliste d'un point de vue historique. Bon, on le sait, les économistes ne se préoccupent pas toujours du réalisme, heureusement pour eux. Et donc, à partir de ce moment-là, on a abouti aussi à d'autres notions qu'on a évoquées ce matin partiellement, et qui troublent encore ou qui perturbent encore plus cette notion, c'est cette fameuse notion de commun. Alors, historiquement, là aussi, comme l'a rappelé Denis Bailly ce matin, bon, même si aujourd'hui on en a une interprétation parfois un peu différente, si on a des usages différents, bon, c'était les communs, c'était une autre forme de disqualification, bon, pour être un peu méchant, de toute intervention de l'État dans la gestion, en particulier environnementale, hein, puisque Vincent Ostrom, le mari d'Elinor Ostrom, ont été un des grands théoriciens du public choice, hein, un des courants dont la majorité de la pensée c'est dévolu, si vous voulez, à la disqualification de l'intervention, de toute intervention de l'État dans l'économie, sous des prétextes en particulier de capture de l'État par des intérêts privés. Donc l'État ne pouvait plus incarner l'intérêt général ou l'intérêt collectif. Il n'était qu'un appareillage au service d'intérêts privés. Et puis, dernier point sur lequel je voudrais évoquer, il y en aurait évidemment beaucoup d'autres, sont des raccourcis assez saisissants, hein, mais qui renvoient à un des fondements de l'analyse économique quand même, parce que qu'est-ce que c'est qu'être un économiste, disait Samuelson, c'est savoir optimiser, c'est-à-dire faire le rapport entre un coût et un avantage, donc minimiser le coût pour un degré donné d'atteinte d'une fin, ou alors maximiser l'avantage par rapport à un budget ou un investissement donné. Donc c'est un rapport coût-avantage. Et donc dans ce cadre-là, l'économie va se fonder sur des logiques de performance, de rentabilité. Ça a été évoqué aussi. Et donc là aussi, la performativité de cette logique de rentabilité, eh bien, elle s'applique aujourd'hui de façon assez large et assez universelle. Donc ça a été évoqué aussi un petit peu ce matin, hein, par Mathieu Elie en particulier. Donc la soumission de l'ensemble des organisations, qu'elle soit privée ou publique, à des critères de performance ou de rentabilité mis en forme sous forme d'indicateurs quantifiés. Donc ce qu'ont montré des gens issus en particulier de l'école de la sociologie de la quantification d'Alain Desrosières, qui a été évoqué aussi hein, cet après-midi, pardon. Donc c'est bien cette performativité des indicateurs. Et donc moi, en tant que chercheur, c'est un des champs par l'intermédiaire desquels j'ai pu aborder cette question, même si elle n'était pas centrale dans mes travaux. Enfin, je ne me suis pas intéressé spécifiquement à la frontière entre privé et public. C'est justement comment des formes, entre guillemets, de résistance ou de penser autrement la réalité pouvaient émerger à travers la production ou des formes de production un peu différentes des indicateurs, en particulier des processus de quantification qui pourraient être appropriés par les citoyens. Et donc, si on réfléchit un peu là aussi sous cet angle particulier de la frontière entre privé et public, hein, bah, on voit aujourd'hui se développer un peu partout dans le monde un certain nombre de processus par l'intermédiaire desquels des collectifs de citoyens vont pouvoir s'emparer du pouvoir de fixation des conventions de quantification, par exemple. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut compter, comment il faut le compter et avec qui, éventuellement, il faut le compter. Alors, pour être plus concret, parce que ça peut paraître peut-être relativement obscur, bon, d'une certaine façon, un des actes symboliques auxquels on a pu assister dans la période relativement récente, c'est la réunion de la commission dite Stiglitz-Sen-Fitoussi par Nicolas Sarkozy en 2008 et qui a rendu son rapport en 2014. Donc, commission dont l'intitulé, c'était une commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social et auquel on avait délégué finalement une commission d'une vingtaine de membres, essentiellement des économistes, quasiment que des hommes. Il y avait juste deux femmes. Hein, parmi ces 20-25 membres, il n'y avait que deux femmes. Essentiellement donc des mâles blancs, hein, pour être très, très caricatural, bon, essentiellement franco-américains, pour faire très simple. Et donc cette commission d'experts était censée nous dire quels étaient les bons indicateurs de progrès économique et social. Donc à partir de ce moment-là, nous dire à partir de quelles mesures on allait orienter nos sociétés, nos politiques publiques. Hein. Bon, tout le monde a entendu parler plus ou moins du produit intérieur brut comme indicateur phare. Bon, voilà, c'était un peu un complément de cela, mais c'était quand même à des experts. Et donc on a été, dans ce cadre-là, un certain nombre à pouvoir prendre des positions et à pouvoir essayer d'expérimenter aussi, dans le cadre d'autres travaux, des façons différentes un peu de construire ces indicateurs et ces conventions de quantification. Donc avec la participation des citoyens, en partant de la base, de ce qu'il disait, de ce qu'il pouvait dire sur des questions de progrès social ou de bien-être, et à partir de ce moment-là, de changer la façon dont on pouvait éventuellement construire des politiques publiques. Mais ça peut aussi, évidemment, concerner des associations. Alors ça se trouve aussi, donc je ne sais pas trop où j'en suis dans le temps, parce que je suis nul en gestion du temps, mais c'est terminé. Donc juste un dernier point pour conclure, hein, parce que ça a été évoqué ce matin. Donc cette articulation-là, elle renvoie aussi à des questions en termes d'impact social ou d'utilité sociale, par exemple. Donc l'impact social, c'est avoir des mesures un peu préconçues de performance. Par exemple, je l'évoquais ce matin après Mathieu Elie, la question du taux d'emploi. Donc une entreprise d'insertion par l'activité économique va être évaluée par l'intermédiaire de son taux d'emploi. Voilà. Et donc on peut aussi penser, non pas simplement simplement en termes d'une logique d'impact, de causalité très, très directe entre une action et un résultat univoque, mais penser de façon plus large en termes d'utilité sociale. Donc ce qu'on mesure très bien finalement en économie, c'est des choses très simples. Hein. C'est une action, un résultat, donc des choses quantifiées très simples. Ce qu'on mesure beaucoup plus mal, c'est des effets beaucoup plus globaux, comme par exemple des effets redistributifs. Donc même un ancien chef économiste de la Banque mondiale, François Bourguignon, disait que finalement, bon, dans ses analyses d'efficience, on voit très bien ce que je viens de dire, mais les effets redistributifs un peu globaux, par exemple, quand on privatise, bah ça, on les voit relativement mal. Donc je conclurai par ces paroles.
Bon, ben merci d'avoir respecté quand même le temps, à peu près. On a donc un large moment de discussion pour terminer cette journée. Alors, quatre disciplines étaient représentées dans cette table ronde. Il y en a d'autres qui sont présentes dans la salle, donc vous avez aussi le droit de vous exprimer. Puis, si vous appartenez à la même discipline, vous avez aussi le droit de dire que le point de vue qui vous a été présenté était peut-être partiel. Et puis, vous avez aussi le droit de dire que l'échelon disciplinaire, en fait, est peut-être pas nécessairement le bon ou le plus adéquat pour penser la question publique-privée. Peut-être même qu'on pourrait faire l'hypothèse que les recompositions des interdépendances entre public et privé appellent justement des approches interdisciplinaires telles que celles que nous avons proposées aujourd'hui. Mais peut-être que c'est là une conclusion prématurée et je vous laisse donc la parole.
Non, je pense que la question a été évoquée aujourd'hui plusieurs fois, mais sans vraiment qu'on entre dans le vif du sujet. Mais il faudrait, je crois, déjà définir ce que l'on entend chacun par public et par privé, espace public, espace privé, sphère publique et sphère privée. Parce que je suis intimement convaincue qu'on n'a pas du tout la même vision des choses et on ne met pas le même contenu derrière les mêmes mots. Et donc déjà, je pense que ne serait-ce qu'un travail pluridisciplinaire sur qu'est-ce que le public et qu'est-ce que le privé, ce serait quand même assez extraordinaire. Et une belle réussite. Est-ce que le public, c'est le collectif ? Est-ce que le privé, c'est l'individuel, le personnel ?
De ce point de vue-là, je suis frappé par la différence qu'il peut y avoir parmi nous. Je pense que, enfin, au moment, au fil des discussions, de temps en temps, on était plutôt sur un modèle selon lequel cette coupure renvoie à des échelles différentes. Et donc un modèle plutôt de continuité. Et à d'autres moments, dans la discussion, on était plutôt sur un modèle de discontinuité. C'est-à-dire les registres du privé et du public seraient renverrés à des, pas seulement à des tailles ou à des grandeurs différentes, mais vraiment à des univers différents et donc à des épistémologies différentes, à des modélisations différentes, à des objets ou à des mises en objets différentes.
Oui, non, je voulais. Merci à tous les quatre. C'était vraiment très stimulant. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Stéphanie. Effectivement, il y a vraiment des problèmes de définition et de termes à utiliser parce que, ne serait-ce que dans ma discipline en sciences de gestion, régulièrement, il va y avoir des discours qui seront faits en disant qu'on est dans le secteur non marchand. Et on parlera des associations. Les associations vivent dans le secteur marchand. Il y a de la marchandisation, il y a des échanges monétaires. Donc on est dans un échange marchand. Donc c'est pour ça qu'il y a des abus de langage. Et effectivement, un travail sur la terminologie serait fort appréciable, à mon avis.
C'est une intuition, hein. Peut-être que cette distinction public-privé, elle est commode. On a tous relevé qu'elle était artificielle. Et pourtant, je suis frappée de voir que dans toutes les disciplines, elle existe. Donc ça veut dire qu'elle est commode à notre réflexion. C'est un postulat qu'on va discuter, que l'on va remettre en question, mais qui nous permet d'avoir un socle à partir duquel on va raisonner. Donc peut-être avoir une réflexion sur l'utilité de cette distinction et en sachant qu'en plus on a des concepts qui sont justement pas clairs, sur lesquels la définition évolue dans le temps, elle évolue, elle n'est pas la même dans les disciplines et au sein même des disciplines.
Oui, mais je pense que si nous utilisons dans toutes les disciplines ces notions, c'est parce que les sciences sociales sont nées à la grande époque où cette notion avait du sens. Sauf erreur, dans l'histoire de la vie privée de Duby et Ariès, sur le volume Antiquité, ils commencent par dire que la notion de vie privée n'a aucun sens. Voilà. Et à l'inverse, je pense que... Alors c'est une référence très, très molle, mais... quand le Serge Tisseron parle d'extimité pour parler de l'intimité sur le web ou des choses comme ça, il montre très bien qu'on ne peut plus continuer à fonctionner avec privé-public. Je pense que c'était le sens de pas mal de contributions, en tout cas. Voilà. Donc je pense que ça fait un peu partie des étoiles mortes avec lesquels on essaie de continuer à penser le monde, mais un peu vainement, je crois. Les collègues juristes disent toujours que droit privé, droit public, ça ne veut plus dire grand-chose, etc. Enfin, je pense qu'on peut faire à peu près le même raisonnement dans toutes les disciplines. Ça a eu marché, mais ça marche plus.
Par contre, ce qu'on peut continuer à essayer de faire, en tout cas, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure en histoire, c'est essayer de voir pourquoi cette... ces mots-là et cette manière de penser persistent et à quel moment ils sont mobilisés, par quel groupe, par quels acteurs, parce que ça permet de décaler un petit peu le problème, c'est-à-dire qu'au lieu de nous arriver avec nos questions et de regarder est-ce que c'est du privé, est-ce que c'est du public, si on prend un tout petit peu de recul, ça permet de faire une histoire un petit peu de la catégorie de pensée, voire de la catégorie d'action, parce que parfois je crois que la manière dont les gens mobilisent cette l'idée qu'il existe, c'est de se faire, ça a un objectif, enfin ça a des objectifs très concrets, etc. Donc en fait, je pense effectivement qu'il y a un travail interdisciplinaire à faire là-dessus, et les historiens pourraient être très utiles, parce que nous on est obligé de faire comme ça tout le temps, parce que on travaille sur cette distinction dans les mots et la pensée des gens qui l'élaborent. Donc on pourrait faire la même chose au temps présent, quasiment, puisque si cela n'existe plus dans les termes d'avant, ça veut dire qu'on peut en faire l'histoire, en fait. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais...
Je vous rejoins complètement, c'était un peu le sens de mon intervention, c'est de dire qu'on a beau critiquer cette distinction, je serais moins catégorique que vous, je ne suis pas certaine qu'on veut y renoncer totalement, parce qu'elle est commode. Et ça serait intéressant de savoir pourquoi elle est commode, effectivement, aujourd'hui.
Oui, puis d'en rechercher les fonctions pour chacune de nos disciplines, les finalités, les fonctions.
Peut-être un petit éclairage Infocom. Moi, je suis spécialiste de communication publique, et donc effectivement, en définissant la communication publique, on est obligé de s'interroger sur la communication privée. Et donc, on voit qu'il y a quand même des différences par rapport à un statut, donc la dimension juridique, ou par rapport à une action, par rapport au fonctionnement en fait, des institutions publiques. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a la question qui est cette tension, cette hybridité, où on voit effectivement qu'il y a des modèles, des modes de fonctionnement qui sont plus particulièrement apparentés au privé ou au public et qui sont... réintégrer, réinterpréter, mais dans un champ spécifique. Moi, je le vois au travers des communicateurs publics. Ils prennent appui tantôt sur la dimension assez traditionnelle du droit public, des institutions publiques, et tantôt aussi sur des logiques professionnelles des communicateurs publics. Donc derrière l'hybridité, il y a aussi, ou tension, que moi je préfère appeler ça hybridité plutôt que tension, il y a l'idée aussi de voir quelles sont les évolutions par rapport à des acteurs sociaux qui utilisent et qui mobilisent des catégories pour soit accentuer leur champ d'intervention professionnelle, organisationnelle ou plus largement. Il y a aussi les acteurs qu'il ne faut pas oublier derrière les départs disciplinaires qui sont effectivement les nôtres. Il y a aussi des acteurs qui utilisent et il faut nous aussi que nous observions ces acteurs.
Je vois qu'elle est en train de partir, mais comme il y avait des personnes qui étaient présentes à Brest qu'on n'a pas entendues de la journée, si vous le souhaitez, ça peut être le bon moment. Non, mais... Non. de y avoir un micro actionné, mais c'était pas une obligation. Hein. C'est juste que si je l'avais pas fait, on m'aurait dit tu n'as pas donné la parole aux gens qui n'étaient pas à Rennes. Donc ça intervient un peu tard. J'en suis désolée, mais c'est pas une obligation. Voilà. Vous devez avoir un micro sur lequel appuyer peut-être si vous voulez nous dire au revoir. Ça marche bien comme ça aussi. Bonne fin de journée. Moi, je voulais revenir sur le débat, du coup, sur l'historicité de cette séparation. Il me semble effectivement que c'est quelque chose d'essentiel, effectivement, de resituer la période, et sans doute que c'est en large part au 19e, dans le monde occidental en tout cas, que cette distinction a été construite. Et donc c'est un observatoire particulièrement important. Et en même temps, j'aurais pas ton optimisme ou ta lucidité, Christian. C'est-à-dire que je pense qu'on fait assez difficilement table rase du passé, en fait, et qu'il y a aussi des formes d'héritage dont on peine à se séparer. Alors, héritage, c'est pas reproduction à l'identique, hein, c'est au contraire réappropriation, transformation, acculturation. Mais rappelons-nous du petit graphique qu'a projeté Mathieu Elie ce matin au début de sa présentation. Alors certes, les choix étaient imposés aux répondants et répondantes, mais c'est quelque chose qu'on entend régulièrement quand on fait des entretiens avec des acteurs associatifs qui assument une mission de service public. Bah, quand ils vont voir des gens, quand ils interagissent avec des gens, ces personnes pensent qu'ils sont fonctionnaires, qu'ils relèvent d'administration. Hein. Donc c'est aussi une référence qui est venue à plusieurs reprises dans les représentations, c'est que ces catégories de pensée, quand bien même elles seraient périmées, quand bien même elles seraient poreuses, etc., elles informent aussi nos expériences individuelles, nos expériences quotidiennes. Et pour le coup, la perspective, disons, constructiviste que tu défends en histoire, je pense qu'elle est complètement transposable à nos disciplines. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit se donner un double défi, c'est-à-dire à la fois faire ce travail conceptuel de quel sens on donne à ces deux termes ou à leurs différentes variantes dans nos disciplines, mais plus largement, c'est une question en fait épistémologique plus large, quoi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit nos concepts à partir de quelles analyses des productions discursives ordinaires, expertes, enfin extérieures au champ académique, en tout cas.
Moi, je me demandais... Là, je pense que tous, on a constaté que finalement, la distinction public-privée a toujours été utilisée sans avoir été toujours très nette, qu'aujourd'hui, elle est l'objet d'évolution parce que c'est une distinction qui est conjoncturelle, que ce n'est pas nouveau et que ça continuera certainement à évoluer. Et à cet égard, là, j'étais en train de me faire juste une réflexion par rapport à la notion de frontière, parce qu'on avait aussi travaillé sur cette question de frontière. Et on peut constater que même la notion de frontière, elle est l'objet d'évolution. Il y a des périodes où la notion de frontière est très marquée, puis d'autres où, au contraire, on souhaite les supprimer. Alors moi, en tant que juriste, et plutôt donc droit public, droit de l'Union européenne et droit international, je ne peux pas m'empêcher de penser au cosmopolitisme de Kant qui voulait supprimer les frontières, et donc finalement qui est une espèce de communauté universelle. Et on pourrait finalement considérer que le web aujourd'hui participe de cette communauté universelle de brouillage de ce qui relève de la sphère intime et de ce qui relève de la sphère publique. On voit bien que ce soit du point de vue des organisations internationales, des organisations d'intégration régionale, il y a eu des efforts pour supprimer ces frontières, notamment d'un point de vue physique. Et puis que là, on observe finalement un mouvement depuis quelques années où il y a besoin de rétablir ces frontières et qu'elles retrouvent un peu une importance. Et peut-être que s'agissant de ces sphères publiques privées, on pourra assister à un mouvement comparable où il y a un moment où il y aura peut-être de nouveau le besoin de rétablir la distinction parce que, justement, il y a des choses qui ne peuvent pas être gérées de la même manière. Enfin, voilà, avec la notion de frontière, je me disais il y a peut-être des analogies à faire pour comprendre les finalités, justement, et c'est ça qui me faisait penser, comprendre les finalités de la distinction publique-privée, voir qu'est-ce qui conduit à leur évolution et qu'est-ce qui donne justement à les repenser, à les reconfigurer si elles restent toujours utiles, en fait. Donc c'est la question des évolutions, des mouvements.
Mais je me posais la question de... Enfin, au-delà de, d'un point de vue économique, effectivement, ça a été dit, il y a, traditionnellement, on s'est penché sur les questions de production, là, les biens publics et les biens privés. Et on a pensé l'économie en termes aussi des démarches individuelles, collectives, etc. Mais je pense qu'il y a toujours un sens de distinguer privé et public en économie, dans le sens où il y a quand même la notion du statut qui est importante à considérer dans cette distinction, dans cette dichotomie entre une institution a un rôle privatif ou un rôle public. Et je pense que la complexité un peu de la discussion relève au fait du fait que là, il n'y a pas une frontière qui est figée. C'est-à-dire qu'il y a une malléabilité. Et je pense qu'il y a une certaine construction sociale qui opère là-dessus. Il y a des sociétés qui peuvent considérer un rôle, donc une sphère qui est de l'ordre du privé. Et puis pour d'autres sociétés, c'est peut-être de l'ordre du public. Et c'est une espèce d'éco-construction, une décision collective, sociale, de déterminer où est-ce qu'on fige les frontières. Mais au-delà de ça... Enfin, moi, je pense que moi, d'un point de vue économique et d'un point de vue institutionnel, moi, je trouve qu'il y a toujours une certaine utilité de cette, au moins, de considérer cette dichotomie.
Oui, moi, je suis quand même frappé par le fait que je pense que d'une discipline à l'autre, nous n'avons quand même pas le même rapport à ce couple conceptuel. Et c'est très frappant. Les économistes, vous avez besoin de public-privé. Et vous en avez proposé des définitions qui sont des définitions scientifiques. Enfin, bien public, bien privé, c'est une modélisation scientifique d'un truc qui est surplombant par rapport à la réalité. Moi, en sciences politiques, j'en ai pas besoin. Enfin, pour moi, c'est un obstacle. C'est un obstacle, c'est un objet, c'est un obstacle, mais c'est pas quelque chose avec lequel... C'est pas un outil. Je pense qu'il y a une... Enfin, j'exagère et je systématise sans doute, mais je pense qu'il y a intérêt quand même à avoir en tête cette polarité. Pour le droit, je ne sais pas. J'arrive pas à... Ce n'est pas très clair dans ma tête. La deuxième remarque que je voulais faire, parce que ce que tu disais, ça, je pense que avoir une perspective constructiviste par rapport à privé-public, c'est bien sûr prendre acte du fait que la frontière, elle bouge. Mais peut-être aussi que la deuxième étape, c'est de dire que le privé et public, en tant que tels, sont aussi des constructions sociales, des arbitraires, etc. Et je sais pas, à titre d'hypothèse, est-ce que c'est pas aussi des catégories d'État, tout simplement, en privé et public ? La notion de public, bon, c'est la res publica. Ça existe à partir du moment où il y a de l'État. Donc pour moi, c'est aussi du langage d'État. Enfin, on peut aussi le dire comme ça, quoi.
Je rebondis sur ce que vient de dire Christian. Effectivement, nous aussi, en Infocom, on a eu assez longtemps besoin de... Bah, notamment, il y a une espèce de communion autour de la lecture habermasienne de l'espace public, parce qu'on avait besoin aussi d'installer ce qui était une des dimensions à l'origine des sciences de l'information et de la communication, qui sont relativement difficiles à définir, qui était la sociologie des médias, et ce lien entre créer un espace de publicisation à l'aide de supports matériels qui sont des médias, qui mobilisent le quatrième. Donc on avait effectivement, à ce moment-là, en tous les cas, besoin. Aujourd'hui, comme on l'a soulevé à plusieurs reprises, il y a tellement de porosité, de reconfiguration. Bon, ça vaut aussi d'être interrogé. Mais à l'origine, on a eu aussi, nous, besoin, parce que c'était heuristique, quoi, et tactique.
Moi, je voudrais juste rebondir là-dessus, sur cette question de l'utilité, inutilité, entre guillemets, de ce couple conceptuel. Alors, nous, en histoire, et particulièrement en histoire du genre, justement une attaque en règle contre ce couple conceptuel et contre cette frontière, justement parce qu'en fait, l'histoire des femmes et du genre a émergé au moment où on considérait que ce qui était dans la sphère privée n'était pas digne de rentrer dans le récit historique. Donc ça a été très important de remobiliser ces catégories-là, justement pour mener la bataille contre ce qui était considéré comme illégitime, parce qu'en dehors du champ du public. Donc en fait, attaquer cette distinction-là, ça a à la fois un sens scientifique, mais aussi un sens épistémologique et politique, évidemment. Donc c'est aussi pour ça qu'on est toujours aujourd'hui un peu gêné, parce que finalement, oui, on n'en a plus besoin, mais... On vient de là et la démarche n'aurait pas pu naître s'il n'y avait pas eu cette nécessité d'abolir cette frontière et d'en montrer les limites, y compris politiques.
Oui, je vais juste dire deux, trois remarques. Juste sur la notion de bien public, bien privé, là, qui a été évoquée. Alors, en même temps, ça pose question, parce que, d'une certaine façon, dans la théorie économique, la notion de bien public n'est définie que de façon résiduelle. Il n'existe des biens publics que, finalement, parce qu'il y a à un certain moment des problèmes qui se posent, des défaillances de marché. Et si on résout, on trouve des moyens pour résoudre ces problèmes-là, eh bien, le bien public en lui-même perd sa raison d'être, d'une certaine façon. Bon, pour être tout à fait caricatural, on va évoquer, par exemple, une rue. Bon, on va considérer que c'est, entre guillemets, un bien. Alors, on va discuter, mais enfin, un bien public, ça peut être un exemple. Mais en même temps, si on trouve un moyen, comme je disais, d'exclure les gens du bénéfice de cette rue, comme c'est tout à fait possible aujourd'hui, il suffit d'un smartphone et puis que vous soyez débité automatiquement dès que vous passez dans une rue, comme vous passez un péage d'autoroute avec un machin de télépéage, bon bah voilà, ça devient un bien privé ou privatif. Donc c'est purement résiduel et purement technique. Donc à partir de ce moment-là, la distinction aussi entre le public et le privé peut être d'ordre politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut instituer comme relevant d'un intérêt public, d'un intérêt général, d'un intérêt collectif, et qu'est-ce qu'on va laisser aux autres formes d'intérêt, un intérêt purement privé, cherchant par exemple à maximiser le profit, etc. Donc c'est aussi cette distinction qui pourrait être de l'ordre de choix politiques et de choix publics, de qu'est-ce qui va relever d'un secteur ou d'un autre. Et donc dans ce champ-là, il me semble qu'il y a toujours une forme d'opérationnalité de ces distinctions. Alors on peut toujours la discuter, on peut être assez nominaliste par rapport à cela aussi. Donc il y a l'aspect un peu recherche, on voit bien que du point de vue du chercheur ou des chercheurs, la distinction est effectivement en pratique opérationnellement floue. Et puis il y a d'autres logiques, cette fois-ci politiques, mais je ne parle pas au sens de la science politique, je parle au sens du politique, de qu'est-ce qu'on veut faire collectivement, quel est le destin commun qu'on se donne entre communautés pour dire voilà, on va mettre des frontières ou pas ici ou là entre le public et le privé, entre l'intérêt général et l'intérêt privé. Donc ça, c'est un point qui relève aussi d'une opérationnalité, me semble-t-il, qui perdure de cette notion-là. Parce qu'on voit bien quand même que dans un certain nombre de mouvements de résistance, par exemple, à la logique de privatisation globale, bah, on retrouve des formes de communalisation. Alors je ne veux pas employer le terme de commun au sens austromien, au sens traditionnel, mais quand même des formes de recréation de communautés qui prennent en main leur destin et qui se mettent à part par rapport à la logique de marchandisation qui tend à s'universaliser aujourd'hui. Donc là aussi, cette distinction public-privé pourrait avoir une forme de pérennité à la fois opérationnelle et intellectuelle. Et puis, dernier point, donc, par rapport à ce qui était évoqué là sur les questions de genre, on voit bien aussi que bah, la façon dont les systèmes comptables, par exemple, sont façonnés, bien, inclut aussi ces questions-là. Par exemple, pourquoi dans le produit intérieur brut, on va compter un certain nombre de choses et pas d'autres. Par exemple, les activités domestiques, traditionnellement dévolues, on va le dire, aux femmes, le ménage, la vaisselle, pour faire très court et très simple, ne vont pas être comptées, alors que d'autres activités plutôt d'ordre masculin vont être comptées. Donc c'est les thèses qui sont développées par Dominique Méda ou Florent Janicatrice, par exemple. Donc à partir de ce moment-là, là aussi, l'interpénétration de certaines parties du privé dans des comptes publics, dans les comptes de la nation, bon, sont aussi des choses sur lesquelles il faut s'intéresser et qu'il faut déconstruire ou reconstruire d'une autre façon, parce que là aussi, les façons de compter ne sont pas neutres non plus.
Pour revenir à cet enjeu des différentes interventions, là, au-delà de l'épistémologie propre à chaque discipline, je pense qu'on est fondamentalement confronté au projet politique de ces disciplines, qui n'est pas forcément identique. Alors l'exemple a été donné par Caroline Muller sur l'histoire des femmes et du genre. On pourrait l'élargir à l'ensemble des études sur le genre, en fait, quand mouvement indissociablement militant et scientifique, quand à la fin des années 60 et des années 70, on dit le privé est politique, c'est bien ouvrir un nouveau champ d'investigation scientifique, mais c'est indissociablement défendre un projet politique. Voilà. Et à cet égard, Christian, tu faisais la remarque, pourquoi les économistes ont-ils défini de manière relativement rigoureuse bien public, bien privé, ou pourquoi le droit, même si ce n'est pas toujours pertinent, en tout cas en France, a distingué droit public et droit privé? Ben, je pense que c'est parce que c'est les deux sciences camérales par excellence, comme on disait en Allemagne à une certaine époque. C'est les deux savoirs qui se sont historiquement constitués comme les plus intégrés dans le champ du pouvoir. Et que, comme tu l'as dit, je peux partager évidemment que ce point de vue en tant que sociologue de l'État et de l'action publique, quoi. C'est-à-dire, ces catégories, elles sont aussi le produit du champ du pouvoir, et pas seulement de l'État, mais plus largement. Eh bien, ces sciences directement investies dans le champ du pouvoir ont eu une place majeure et ont eu intérêt, pour le coup, pour reprendre une autre catégorie qu'on a mobilisée ce matin et qui me paraît importante, à travailler cette distinction. Tantôt pour légitimer l'action de l'État, tantôt pour dire au contraire il faut le libéraliser, enfin comme ça a été dit dans l'intervention tout à l'heure.
Oui, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il ne faut pas oublier que l'État quand même dispose de moyens qui lui sont propres, les prérogatives de puissance publique, et que c'est quand même à l'origine de notre distinction. Alors ça ne l'oblige pas à utiliser ses prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire qu'il peut très bien intervenir par d'autres moyens, qui peuvent être des moyens communs, des moyens de droit privé. On parlait de contrat il y a peu de temps. Mais on a quand même cette spécificité de l'action publique et cette spécificité de l'État, qui est la prérogative de puissance publique. Et donc là, effectivement, on en revient à la légitimité de l'État et le monopole de la violence légitime et à la structure étatique, quoi.
J'ai le sentiment en droit que cette distinction privée-publique tend à être plus artificielle qu'effective, mais mis à part effectivement ces spécificités, mais il y en a partout maintenant des spécificités dans tous les pans du droit, donc ça devient difficile de la distinguer des autres, comme une particularité qui fonderait une discipline, un champ disciplinaire particulier. En revanche, et vous m'avez devancé, il y a un critère qui est l'intérêt collectif et l'intérêt personnel qui est très fort aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment, toutes nos réflexions reposent sur cette tension entre intérêt collectif et intérêt personnel, en tout cas en droit. Et si nos recherches sont transversales au droit privé et au droit public, en revanche, à chaque fois, on s'interroge sur ça, sur quel est l'intérêt de cette règle, quel est l'intérêt poursuivi, enfin, quelle est l'intention politique à l'essence de cette règle. Donc, ça, c'est peut-être une traduction modernisée de la distinction public-privé. Après, la notion de public-privé, elle se retrouve dans des règles particulières. C'est-à-dire qu'on va... je parlais de l'injure publique, l'injure privée. Bon, ça reste un critère qu'on utilise, qui va être utilisé dans des dispositions particulières. Mais là, on parle plutôt de sphère d'espace, d'expression, plutôt qu'autre chose. Donc, c'est pas une notion si fondamentale. C'est une notion matérielle, presque. C'est juste une distinction matérielle.
Je ne sais pas du tout quoi penser du glissement de privé-public à individuel-collectif. Ça brouille la carte complètement, mais c'est une bonne piste, évidemment. Mais là, parce que privé-public, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai parlé de discontinuité, c'est quand même un peu le sacré et le profane, c'est un peu le propre et le sale. Enfin, je veux dire, il y a du lourd derrière, quoi. Alors que individuel et collectif, c'est plus qu'une question d'échelle, quoi. Mais je ne sais pas.
Oh, ça peut être... C'est pas qu'une question d'échelle, c'est... voilà, l'intérêt général, je ne pense pas que ça soit qu'une question d'échelle.
Si ce n'est que l'intérêt général aujourd'hui poursuit parfois ou est composé d'intérêts particuliers. C'est-à-dire qu'on a effectivement l'intérêt collectif et l'intérêt individuel qui fusionnent parfois. On a ces logiques-là. C'est extrêmement difficile.
Alors, d'un point de vue économique, je pense que ça peut porter à confusion parce qu'il y a des démarches collectives qui sont privées. Vous faites un processus de labellisation d'un tel produit, c'est une démarche collective. Ou des arrangements au sein d'un secteur, c'est une filière, c'est des démarches collectives. Mais ça peut rester dans les sphères privées ou publiques. Donc ça ne marche pas très bien pour l'économie.
Mais cette question de la place des individus, là, elle est quand même revenue de manière structurante dans beaucoup d'interventions, en particulier cet après-midi. Donc il y a peut-être une autre manière de prendre la question. C'est-à-dire, comme tu as dit, Christian, tout à l'heure, à juste titre, les sciences sociales sont nées, donc en gros au 19e, à cette période où le mur de la vie privée s'élabore, etc. Je veux dire, l'individualisation, on s'accorde aussi pour dire que c'est largement un processus qui naît au 19e. Et du coup, on a vu quand même plusieurs interventions aujourd'hui qui semblaient dire que les individus ne sont pas tout à fait travaillés, gouvernés de la même manière, selon qu'il s'agisse, je ne sais pas, par exemple, de la métropole de Lyon et de des informations dont celle-ci dispose sur les infrastructures routières urbaines, ou selon qu'il s'agit d'une application d'origine israélienne qui part des comportements des individus eux-mêmes. Enfin, voilà. Donc je pense qu'on peut aussi travailler la place du public et du privé sous l'angle de la manière dont ils contribuent à ce processus d'individualisation. Enfin, ce n'est pas tout à fait les mêmes choses qui se jouent, il me semble.
Moi, je me demande si finalement le critère le plus pertinent, c'est pas tout simplement celui de l'échelon. Quel est l'échelon de régulation le plus approprié? Et là, avec voilà, mon prisme droit de l'Union européenne, moi, je pense au principe de subsidiarité, finalement. C'est le principe de subsidiarité qui peut être qui permet de trouver le bon curseur, finalement. Parce que moi, j'ai tendance à considérer, un peu comme Stéphanie, qu'il y aura toujours à minima, même si c'est réduit à sa plus simple expression, les prérogatives de puissance publique dans certaines conditions qui seront irréductibles tant que l'État existe. Il y aura forcément, dans certains cas particuliers, même s'ils sont peut-être moins nombreux selon les circonstances et selon les besoins, c'est ce moment où ces domaines d'action qui nécessiteront une action plus publique pour des considérations d'intérêt général, notamment. Et à mon avis, sur la question de savoir à quel moment ce sont des questions qui doivent relever de la sphère publique, à quel moment ce sont des questions qui doivent relever de la sphère privée, en tout cas, la réponse, c'est le principe de subsidiarité. Après, c'est quels sont les critères qu'on met pour justement faire fonctionner le principe de subsidiarité.
Si on prend cette question pour un économiste, on prendrait un peu flou pour un économiste prendre comme ça ce que disait Michel Renaud, mais du point de vue de l'économie, on pourrait réduire cette part de l'État à presque rien. C'est pas une question de subsidiarité. C'est une situation subsidiaire au sens, pour l'économiste aussi, c'est une question de qui serait le plus efficace pour faire. Mais on peut réduire l'État à rien du tout. On peut faire la guerre avec des mercenaires, on peut avoir que des écoles privées, on peut privatiser les prisons comme aux États-Unis. On peut réduire le régalien, justement, le fameux régalien, à quasiment rien. Et puis avec la main invisible, d'ailleurs, rien du tout. Voilà. Et tout pourrait bien fonctionner. Alors, est-ce que pour autant, tout devient privé? Est-ce qu'on peut dire qu'on a réduit tout à du privé? Je pense que là, la dichotomie privé-public, elle fonctionne plus du tout. Parce qu'on a privatisé, on a rendu privé? Et par rapport à la question privée-publique dans l'espace, la sphère, sur les questions de genre ou autres, la vie dans la famille, en gros, et ce qui est derrière les murs et ce qui est dans la rue, pour moi, on n'est pas dans le même registre. On est dans deux registres totalement différents. En économie, pour revenir sur quelque chose qui a été dit, enfin, c'est vrai que cette dimension-là, par contre, la gestion des choses, l'offre de services ou l'offre de biens sous une décision individuelle qui est plus sous l'autorité collective et de l'État, elle structure tout un champ de la discipline. Alors c'est le champ de la discipline, notre paradigme dominant ou qui nous domine dans l'économie. Si on part plus de là, c'est-à-dire d'un certain nombre de rationalités, de décisions, de rationalités, celle du consommateur, celle du producteur, maximisation de l'utilité dans les deux cas ou autre. S'il n'y a plus ça, toutes les constructions mathématiques qui fondent le corps du paradigme central et qui font une sorte de scientisme du paradigme central de l'économie s'effondrent.
Ça confirme bien que les disciplines sont très présentes dans la manière d'appréhender les notions. Puisque vous avez à deux reprises précisé pour les économistes et que moi, je ne suis pas économiste. Donc forcément, j'ai une autre manière d'envisager cette distinction public-privé plutôt sous l'angle des institutions et des règles qui vont être mises en place pour organiser la société.
Alors, puisqu'on discute un petit peu des institutions, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, en France, en tout cas, cette idée qu'il existe une sphère privée, une sphère publique et les textes de droit, en fait, qui élaborent cela, ça naît justement au moment où on a un fonctionnement social et politique qui est totalement à réinventer. Puisqu'en fait, ça sort de la Révolution française, la fin de l'Ancien Régime et de la Société d'Ordre. Et donc, au moment où on construit une nouvelle forme d'organisation politique, on est obligé d'inventer aussi de nouvelles règles. Donc, peut-être que le jour où il y aura un fonctionnement étatique radicalement différent, peut-être qu'on verra naître d'autres manières de réfléchir ce rapport public-privé. Enfin, c'était juste my two cents.
Oui, et peut-être pour prolonger, enfin, en fait, il y a deux histoires du clivage public-privé, ce que vous disiez. Il y a secteur public, secteur privé. Et quand on parle secteur public, secteur privé, une association, une entreprise, c'est du privé. Et puis il y a public-privé au sens privé égale intimité, etc. Et le même espace, c'est l'entreprise ou l'association, va devenir un espace de vie professionnelle, donc de vie publique d'une certaine façon. Donc en ce sens-là, voilà, faut pas fétichiser les notions. Elles se distribuent quand même. Enfin, le clivage, il a quand même des sens très différents selon les univers sociaux et donc selon nos disciplines. Mais quand on fait une journée à la MSH sur des notions comme ça, on arrive toujours à cette conclusion-là.
Non, je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Christian Lobart, sur la notion de multi-appartenance, peut-être. Quand on comprend en effet privé au sens d'intime, on a évoqué tout à l'heure le terrain notamment des réseaux sociaux numériques. On voit bien que si on relie les travaux de Bernard Lahire sur l'homme pluriel, etc., on voit qu'un même individu, si on se met au niveau de l'individu, est multi-appartenant et peut appartenir en effet à plusieurs sphères amicales, professionnelles. Et je pense qu'il y a beaucoup peut-être à creuser avec cette notion de multi-appartenance.
Alors, si je peux me permettre de rebondir tout de suite, moi qui travaille beaucoup les questions de catholicisme, il y a aussi des résistances extrêmement fermes et explicites à cette idée qu'il y aurait des sphères. Donc par exemple, un légitimiste ou un catholique très engagé du 19e siècle, bah, pour lui, qu'on lui explique qu'il y a une sphère privée, une sphère publique, et que c'est pas les mêmes logiques qui s'appliquent dans l'une et dans l'autre, ou que l'État a un droit de regard sur ce qui se passe dans la sphère privée, ça n'a pas de sens, parce que le catholicisme, à ce moment-là, c'est un système total. C'est-à-dire qui entend apporter un règlement à tous les problèmes. Et aujourd'hui, bon, on a une recrudescence de ça, en fait, hein, dans la manière dont certaines mobilisations ont été menées, même récemment, etc. Ce qu'on appelle les catholiques d'identité réfutent cette idée qu'il y aurait du privé, du public, et puis que chacun devrait obéir aux règles. Donc il n'y a pas seulement ce processus d'installation des sphères, il y a aussi toutes les résistances des systèmes de valeurs et des acteurs qui portent des systèmes de valeurs et de croyances qui ne se reconnaissent pas dans cette distinction. Donc je suis d'accord avec vous sur la question de l'appartenance, de la multi-appartenance, voire même de la résistance à cette manière de considérer l'organisation de la société.
Anna Arendt donne une définition justement du totalitarisme avec cette idée de la négation, c'est-à-dire il n'y a pas de séparation, l'État est partout, regarde et tout. Donc...
Peut-être qu'il y a eu une victime de cette séparation-là aussi, de l'abandon de ça. C'est où sont passées les sciences morales dans votre filiation là, du droit et des sciences politiques ?
Je pense que justement, quand Christian dit « on s'en moque, c'est un obstacle », c'est bien qu'il a complètement renoncé aux sciences morales.
Peut-être moi, pour juste du point de vue de la question des données et de la sphère publique-privée et aussi du coup individu-collectif, comme ça a été un peu évoqué, en fait, ce qu'on peut observer, c'est que, enfin, il y a une espèce de jonction entre l'intime et le privé, et en même temps cette idée aussi d'un gouvernement qui, en fait, a une capacité à collecter beaucoup plus de données et donc sur les comportements et donc potentiellement sur l'intimité, et qui est associé à un processus qui est beaucoup plus large et plus qui amplifie un processus plus large de gouvernement des comportements individuels. Et ceux-là, ils sont menés que ce soit par la sphère publique, enfin par des acteurs publics en tant que tels, ou par des acteurs privés. Mais forcément, si ce sont des acteurs privés qui ont ces données sur les individus, sur les comportements, et bien forcément, l'acteur public aura recours à ces acteurs privés pour gouverner la sphère de l'intimité. En fait. Donc ça fait une espèce de jonction entre votre distinction acteur public, acteur privé et du coup individu. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on observe très concrètement. Moi, mon cas de Waze que je présentais tout à l'heure, de gouvernement des individus dans leur sphère privée d'automobilistes, etc., eh ben, les acteurs publics peuvent avoir recours à Waze pour également aussi amplifier leur idée de gouvernement des populations.